Bonjour, bienvenue sur Mediapart dans un nouveau numéro de l'émission Les Voix du Pouvoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la droite ou aux droites françaises et à ce qu'il en reste sur le plan électoral, culturel, idéologique. Pour en discuter, nous recevons Émilien Houard-Vial. Bonjour.
Bonjour.
Vous préparez une thèse à Sciences Po sur la droite contemporaine et vous publiez régulièrement des billets d'analyse sur votre blog personnel en attendant le fruit académique de vos recherches. Pour entrer dans le vif du sujet, on enregistre cette émission à l'heure où il y a un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée, qui vise à conforter le respect des principes de la République. En réalité, c'est un texte contre le séparatisme, comme l'avait annoncé le pouvoir. Et à cette occasion, à Mediapart, on a bien raconté comment la droite profite du texte pour déposer toute une série d'amendements toujours plus répressifs, notamment contre les signes religieux et le voile islamique en particulier. Et si je prends cet exemple, au fond, c'est pour vous poser la question suivante, est-ce que cette surenchère identitaire qu'on trouve du côté de LR ne traduit pas leur impasse stratégique des Républicains et de la droite traditionnelle qui voit son offre politique aujourd'hui être presque capturée par le pouvoir en place?
Ce qui est intéressant de constater, c'est que le cadrage lui-même du projet de loi séparatisme est axé sur l'idée qu'il existe une forme de risque. Emmanuel Macron voulait atténuer un peu l'idée, on ne parle pas de communautarisme, mais voilà, le fait est là, de séparatisme d'une partie de population, et l'idée que, quelque part, c'est l'existence même de l'islam qui, voilà, peut potentiellement dégénérer à des moments. Et partant de ça, forcément, le curseur qui est placé est déjà plutôt à droite, et donc les Républicains vont assez logiquement aller peut-être plus loin que ce qu'ils étaient incités à faire initialement. Après, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne se sont pas tout d'un coup mis à se radicaliser, si je puis utiliser cette expression-là, au moment de la loi sur le séparatisme.
Mais vous dites que c'est ancien, quoi.
C'est ancien. Et l'idée, par exemple, de la question du voile à l'université existe déjà à droite depuis longtemps. On retrouve chez Nicolas Sarkozy, après même son quinquennat, au moment des primaires. Et donc, finalement, c'est... On peut, en effet, se demander s'il n'est pas un peu coincé entre les propositions un petit peu... voilà, extensive, maximaliste du Front National et une position déjà bien à droite de La République En Marche. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez naturel dans les prises de position. Je ne crois pas que ça soit joué. Et je pense que aujourd'hui, oui, la droite pense ça sur les questions d'immigration, d'islam, de laïcité, de communautarisme, etc. Et que donc, elle a pas trop à s'inquiéter. Elle se force pas pour formuler les propositions qu'elle force actuellement.
Je comprends. Alors quand même, je poursuis sur cette idée. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui entre, on va dire, la force de l'appareil LR, les Républicains, hein, son destin électoral qui apparaît quand même assez compliqué, en tout cas au niveau national. Donc des vraies difficultés pour l'appareil, hein, qui est issu encore une fois de la droite traditionnelle. Et bah justement l'audience des idées de droite qui sont bah, très bien représentées au gouvernement par des gens issus de cette droite, que ce soit Bruno Le Maire en économie, que ce soit Gérald Darmanin à l'intérieur, bah, qui vient de publier un bouquin sur justement le séparatisme islamiste et qui donne très régulièrement des entretiens sur le sujet. Donc au fond un paradoxe entre une droite partisane qui va pas très bien et des idées de droite, et un personnel politique de droite qui s'épanouit sous un gouvernement qui était censé quand même offrir un peu quelque chose d'un peu différent.
Je ne sais pas si on peut parler de paradoxe, parce que y a un élément, c'est qui est que la droite ne se réduit pas, même s'il y a eu la volonté de créer le parti unique de la droite et du centre, qui était l'UMP puis les Républicains, la droite ne se résume pas au parti des Républicains. La droite peut exister comme idée, comme personnalité en dehors du parti, et on voit très bien qu'au sein du gouvernement Macron, dès 2017, ont été récupérées certaines personnalités qui ont jamais renié leur appartenance de droite, qui ont été plutôt fiers, et qui même voyaient une forme de continuité entre leur action gouvernementale et leurs engagements premiers à droite, en tant que député, par exemple. Et finalement, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait que la droite ait été au pouvoir à un moment, en ayant porté certains thèmes, et non pas que l'immigration ou l'islam, fait beaucoup d'autres choses, mais en tout cas ces thèmes-là, notamment avec Nicolas Sarkozy, et même antérieurement, on retrouve ces sujets dès le gouvernement Chirac II avec Charles Pasqua. Et donc finalement, le fait qu'elle ait été au pouvoir et qu'elle ait porté ces idées-là en tant que partie de gouvernement, donc en tant que membre légitime du système politique français, fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de mal pour des gens qui ne sont pas membres du parti de droite à formuler des idées qui pourraient paraître pour certains un peu trop radicales, mais sont tout à fait normales pour d'autres. Et dès le mandat de François Hollande, on retrouve ces idées sur la laïcité, le communautarisme, l'islam, dans des franges du PS, avec Manuel Valls par exemple. Et donc, certes, l'organe partisan de droite est assez mal en point, en tout cas au niveau national, mais les idées survivent très bien en dehors du parti. Donc ça...
Juste un point de diagnostic sur, on dit au niveau national ça va pas très bien, est-ce qu'on peut un peu expliquer pourquoi pour celles et ceux qui nous regardent, et est-ce que c'est moins vrai justement au niveau des territoires, comme on dit, au niveau des positions locales du parti? On sait que les municipales n'ont pas été vraiment mauvaises pour la droite pour le coup.
Non, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, vers 2015-2016, quand la droite approche la présidentielle et l'envisage en se disant que vu le bilan un peu compliqué de François Hollande, elle sera obligée de gagner, il y a une base électorale, une base élective aussi en termes de mandat qui est très importante. La plupart des régions, la plupart des départements, beaucoup de grandes villes. Et donc, même si il y a eu la chute qui a été importante de 2017 avec la présidentielle puis législative, où il y a eu une division par deux du nombre de députés de la droite, puis les européennes qui ont été une catastrophe qui était encore inattendue, donc on a l'impression d'une chute sans fin. En réalité, il y a un ancrage de la droite très fort dans des villes, dans des départements.
Qui est préservé, quoi.
Absolument. Et donc, même si elle a perdu, par exemple, Bordeaux ou Marseille, il y a encore beaucoup de villes moyennes qui subissent la droite, qui sont très, très bien ancrées, où on voit que les marcheurs n'ont pas du tout réussi à pénétrer, où il y a une légitimité qui est ancrée parfois plus sur la personnalité du maire ou de la maire que sur le fait qu'il soit de droite, mais de facto, voilà, il y a quand même un vivier de droite locale au sein du parti, et évidemment, ça joue après sur qui va être légitime à parler au nom de la droite au niveau national. Et on voit aujourd'hui que c'est beaucoup de maires, de députés très ancrés dans les territoires, en tout cas, qui se revendiquent vraiment venant de territoires, y compris pas forcément urbains ou pas forcément très, très, très peuplés, ou des présidents de région.
Donc, vous dites en fait que les mandats électifs locaux donnent aujourd'hui une légitimité à droite beaucoup plus forte qu'auparavant, où c'était le prestige national qu'on avait sur la scène nationale qui comptait.
Auparavant, ce qui comptait, c'était le fait qu'on ait des grandes figures nationales qui aient été ministres qui a eu des postes importants au sein du parti, donc c'était, même encore très récemment, des Juppé, des Fillon, des Sarkozy, des NKM, etc.
Donc des gens...
Qui, donc, étaient au pouvoir et qui, peut-être, allaient revenir au pouvoir, donc qui étaient importants en tant que tels, en tant que figure médiatique. Et aujourd'hui, comme cette génération, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, en termes d'âge, en tout cas, en termes de passage au gouvernement, a été un peu balayée par les événements de 2017, et même pour certains, n'ont pas été balayés mais sont éloignés du parti, par exemple Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand qui ont un peu pris le large, aujourd'hui, qui restent? Ils restent des maires, ils restent des présidents de région, ils restent des présidents de département, ou des gens, ou même des nouveaux députés qui sont arrivés un petit peu par leur militantisme local nouvellement, et donc n'ont même pas connu le mandat de Nicolas Sarkozy, en tout cas n'ont pas été médiatisés à ce moment-là, et donc aujourd'hui, oui, c'est plus eux qui portent la voix de la droite, y compris dans le chef qui est Christian Jacob, qui se revendique d'un ancrage très important en Seine-et-Marne, ou Gérard Larcher, et donc c'est eux qui dictent un peu la parole de la droite, et évidemment ça peut avoir après des influences sur l'importance que va donner la droite à la décentralisation, à des thématiques rurales, à des thématiques même ce qu'on ne voyait pas avant, de réimplantation de services publics, où avant c'était le mandat
Sarkozy,
c'était
la réforme de l'État, on sabre,
la réforme de l'État, en tout cas une forme de rigueur, une bonne gestion, donc à un moment on regroupe, etc. Et aujourd'hui, on se dit, on voit que les territoires dans lesquels bah, nos élus ont gagné, sont quand même touchés par ça. Mmh. On commence à se dire que bah, aussi le Front National, Rassemblement National, aujourd'hui gagne un petit peu sur ces thématiques de services publics qui disparaissent.
Ouais, d'abandon de l'État.
Voilà, on n'a plus de gare, on n'a plus de poste, on n'a plus de même de boulangerie. Donc on commence à se dire, oui, mais il y a un enjeu sur ces villes moyennes. Et finalement, qui nous reste quand les plus à droite, qu'on peut pas forcément concurrencer son parti, ou quand les gens des grandes villes, peut-être un peu plus aisés, peut-être un peu plus libéraux, sont partis, il nous reste ces gens-là, plutôt âgés, mais aussi des endroits périurbains, villes moyennes, espaces ruraux.
Ouais. Alors, à l'approche de 2022, a priori, le parti va se choisir un candidat, ou en tout cas soutenir un candidat. Aujourd'hui, la direction du parti, assez clairement, veut se débarrasser des primaires. Hein. François Fillon était issu des primaires de la droite. Ces primaires sont inscrites dans les statuts. Et il y en a une petite minorité dans l'appareil dirigeant, dont Bruno Retailleau au premier rang, qui tente, malgré tout, d'imposer ses primaires au parti. On va regarder un petit extrait où il défend ce point-là à la télévision.
Et je dis à ma famille politique, donnons la parole à nos militants, donnons la parole à ceux qui votent pour nous. Voilà. Parce que ça sera la meilleure chose pour faire le meilleur moyen, pour faire vivre le débat des idées, le débat du projet.
Vous présenterez ce suffrage pour le coup pour faire valoir vos idées ?
Mais pourquoi pas, si évidemment c'est le cas. Et moi je l'appelle.
Est-ce que justement, puisque personne n'écrase le match, pour reprendre votre expression, est-ce qu'il faut une primaire au sens large, organisée peut-être par les Républicains, mais au sens large de la droite?
Bien sûr, moi je pense qu'il faut donner la parole aux gens. Je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie représentative. On voit bien que tous, on se plaint de la participation. Et nous, on ne voudrait pas donner cette participation, la parole, donc à nos militants, mais aussi à des sympathisants. Il faut une primaire qui soit aussi ouverte pour donner un élan ensuite, parce que ce sera une élection difficile, et que si on n'a pas cet élan, si on ne mobilise pas notre électorat, nos sympathisants, nos militants, voilà, eh bien je pense qu'on perdra l'élection présidentielle.
Alors, comment on explique des positions aussi antagonistes entre un Retailleau et la direction? Évidemment, chacun a ses intérêts, vous allez les décrypter, mais on peut aussi identifier des raisons de fond pour ou contre ce dispositif des primaires.
D'abord, ce qui fait qu'il y a des dissensions au sein du parti, c'est que les primaires sont pas du tout institutionnalisées. On est arrivé à un moment, notamment en 2014, où il y a eu un grand conflit de leadership au sein de la droite, et où à un moment, il y a une forme de deal où on laissait Nicolas Sarkozy y aller, voilà, on créait pas trop de compétition, et en même temps, on disait que là, on trancherait avec des vraies primaires. Et donc, c'est une manière un peu de déconflictualiser l'élection à la présidence de 2014. Et donc, les primaires sont arrivées comme ça. En même temps, on se disait que c'était une bonne idée pour la démocratie, finalement, de donner la voix aux citoyens. Ça créerait une forme d'inertie, de mouvement issue de toute la médiatisation des primaires, où il y aurait déjà eu des programmes, des campagnes, des débats, etc.
Une exposition médiatique,
une forme de légitimité aussi, de savoir qu'on a un candidat qui n'est pas juste élu par... À l'époque, je suppose qu'on devait encore être vers les 250 000 adhérents des Républicains. Et voilà, ça a été quand même 4 millions, ça a été un succès. Mais le fait est que c'était nouveau et qu'il a suffi que ça ne marche pas. En tout cas, que le candidat qui a été désigné...
ne soit pas au second tour et encore moins
trébuche, essentiellement pour des raisons qui sont, à mon sens, assez indépendantes des primaires en elles-mêmes, pour que ça soit remis en cause. Et en fait, on est un peu revenu 10 ans en arrière, où on se posait la question de quel est l'intérêt des primaires. Et donc des personnes qui veulent éviter une forme de présélection où les grands pontes du parti se jugent un peu pour savoir si on va y aller, on va pas y aller, et que finalement le candidat soit déjà choisi avant qu'il y ait un vote. Bon, on sait que la primaire, c'est l'occasion, pour peu qu'on soit qualifié avec suffisamment de signatures, pour se mettre en avant, pour s'exprimer, et au moins pour avoir sa chance. Je suis pas sûr que quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est très apprécié des militants, parce qu'il représente une forme de certaines fiertés d'être de droite, ou dans le cas d'assumer des idées conservatrices, de pas faire de compromis, est vraiment un intérêt à la primaire, puisse gagner grâce à la primaire, puisque ça signifierait quand même une base beaucoup plus large, et on sait que la base de droite, même si elle était fidèle à François Fillon, on sait qu'elle n'irait pas forcément vers Bruno Retailleau, parce que il n'est pas très
si
connu.
Même si lui active les réseaux Fillon.
Oui, parce qu'il a le positionnement qui a plu au noyau de droite, qui, logiquement, s'est le plus mobilisé pour la primaire de 2016. Mais en même temps, ce qui fait que les gens ont aussi voté François Fillon, c'est qu'il était connu. Il était ancien Premier ministre. Il avait eu une énorme capacité de mobilisation. Et Bruno Retailleau, même s'il a cet ancrage qui est important, ses réseaux, son propre mouvement, Force Républicaine, qui a été repris de... légué par François Fillon, c'est vrai que la notoriété est moindre, malheureusement pour lui, et donc il n'est pas sûr que la base le choisirait par rapport à Xavier Bertrand, qui, et c'est ça qui est le plus important en fait, quand il s'agit pour les électeurs de droite, pour les simples de droite, de choisir qui sera le candidat, c'est ça qui est le plus à même de faire gagner son camp.
Une petite question quand même sur Xavier Bertrand, parce qu'il est beaucoup au centre des discussions. Lui, au fond, il avance que la vraie primaire, finalement, c'est les régionales, et qu'en gagnant les régionales, il aurait la stature pour. Mais quand même, pourquoi il résiste à ce point-là, à cette idée de primaire? Il est même parfois insultant, il dit « oui, tout le nouveau dispositif qu'on invente, j'y comprends rien, moi, toutes ces histoires ». Est-ce que, voilà, il y a quelque chose en termes d'intérêt qui le pousse à refuser ces primaires? Pour vous, c'est pas rationnel?
C'est pas que c'est pas rationnel, c'est simplement le fait que on a constaté qu'en 2016, pardon, le candidat qui était censé être élu, le plus populaire, celui qui était le plus haut dans les sondages, qui était Alain Juppé, n'a pas gagné. Oui. Et donc il y a cette idée que finalement la primaire peut être une surprise. Donc quand on est une challenger, quand on n'a rien à perdre, bah, autant avoir une primaire, c'est toujours ça de gagner. Mais quand on est celui qui est le mieux placé, finalement, est-ce qu'on a intérêt à peut-être se voir remis en cause, se voir subir des attaques, parce que la primaire de 2016 a quand même été assez virulente parfois, avec des surnoms à certains candidats donnés. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'on n'a pas envie de jouer son va-tout, sachant que on a une popularité, on va dire, dans l'électorat de droite, mais que c'est pas tout l'électorat de droite qui vote à la primaire, c'est le noyau, et le noyau, ben, il peut un peu diverger, on peut avoir des surprises, même si au sens de la science politique, voilà, il y a vraiment des surprises, parce qu'on sait que, voilà, qui se mobilise plutôt, mais on peut avoir des surprises, et c'est pas le plus, celui qui a le plus de notoriété ou de médiatisation qui va forcément l'emporter.
Ouais. Sur les primaires, parce que je citais votre blog tout à l'heure sur lequel vous avez publié un article à propos des primaires, d'ailleurs, la question vaut pas seulement pour la droite, hein, ça vaut pour la gauche aussi, ou évidemment, la question des primaires depuis plusieurs années est en circulation. Vous écrivez, hein, la question des primaires ne saurait être un prétexte pour masquer les insuffisances, si ce n'est les indigences de la politique contemporaine. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, en fait, que les problèmes des partis aujourd'hui se situent ailleurs que sur la question de la désignation des candidats?
Alors, d'abord, oui. Le problème étant que... En fait, le problème, c'est que on adopte les primaires pour les mauvaises raisons et on les refuse aussi pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que, d'une part, on demande des primaires parce qu'en fait, on ne sait pas trancher. C'est-à-dire que généralement on a des primaires soit parce que personne n'émerge naturellement, soit parce qu'il y a des trop grosses têtes d'affiche qu'on peut pas départager simplement, et donc la primaire est un genre de moyen de trancher assez simplement.
Ça, c'est plutôt une bonne raison.
C'est plutôt une bonne raison. Le problème, c'est que derrière, ce qu'on a vu en primaire 2016, c'est que chacun en fait a mené sa partition de son côté. Le parti a essayé de concevoir un programme, un projet, mais qui n'a pas vraiment été investi par les candidats. Ils ne sont pas sentis vraiment engagés par ce programme-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une figure qui émerge pour elle-même, et bah, ceux qui ne sont pas d'accord, finalement, il faut retrouver un genre de compromis après l'élection.
C'est ce qui a été raté par Hollande, en fait. C'est le parti avait fait sa propre production, Hollande gagne cette primaire, voilà. Et à la tête de l'État, il est incapable de renouer, on va dire, avec la diversité, la pluralité de son parti.
Un petit peu, parce que le parti avait déjà tenté une synthèse au sein du PS en 2011. D'ailleurs, il y avait au PS un vrai programme, un ensemble de, je ne sais plus combien, peut-être une trentaine de propositions, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur lequel les candidats devaient s'engager. Et ce qui s'est passé à droite, c'est qu'il y a eu un projet qui, censément, s'était mené à l'époque par Éric Woerth, chapeauté par Nicolas Sarkozy, mais en tant que président de parti. Donc, une volonté de rassembler tout le monde, de faire un genre de synthèse que certains peuvent juger un peu molle, puisque, voilà, on tranche pas forcément pour un camp ou pour un autre. Et quand une personnalité émerge avec censément une tendance ou une inclination ou des voilà ces petits thèmes de préférence par exemple, eh ben le mix entre les deux pose problème. Et là, il a posé problème pas pendant le quinquennat qui a pas eu lieu, mais juste après, au moment où il a fallu dire bon bah François Fillon, est-ce que tu vas un petit peu mettre de l'eau dans ton vin, est-ce qu'on va pas supprimer cette proposition qui est un peu trop radicale. Et là, chez François Fillon, l'équipe qui disait bah non, on a été élu, on a notre légitimité, donc pourquoi est-ce qu'on changerait. Donc finalement, une forme de valorisation des personnalités au détriment d'une mise en avant d'un projet commun, et c'était le cas pour François Fillon, parce que on a eu finalement un an de campagne pour les primaires, en 2016, qui était énorme, en exagérant sans doute les différences entre les candidats, alors qu'il y avait un consensus assez large, mais finalement en choisissant chacun de porter son propre projet et de voir après éventuellement à rassembler, voilà, avec des sourires parfois un petit peu forcés, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de concertation. Et ben, on voit que d'abord on voit qu'on fait de la politique pour des mauvaises raisons potentiellement. C'est-à-dire qu'on passe en avant les idées, on se focalise trop sur les personnes, et qu'au moment où il y a une crise, eh ben on n'est pas capable de vraiment se mettre ensemble et de s'accrocher derrière un projet finalement.
Est-ce que un des problèmes qu'a illustré plutôt les primaires de droite de Fillon, on en parlait tout à l'heure quand on parlait du peuple de droite entre guillemets, est-ce que c'est pas le fait que la droite a toujours été et c'est jusqu'en 2017 et c'est toujours voulu un grand parti de gouvernement, sauf que sa base s'est radicalisée et donc forcément donner la voix à la base, ça promettait peut-être d'avoir un candidat trop radical, vous le disiez comme par rapport à Fillon, trop radical par rapport à l'équilibre qu'il faudrait pour être compétitif pour le pouvoir. Quoi. Ce qui explique que François Fillon était déjà, avant même les affaires qui ont défrayé la chronique, était déjà en difficulté face à Macron.
Le point de savoir si la base des Républicains s'est radicalisée est un peu délicat, parce que forcément les sondages sont un peu compliqués à faire, et ça fait un moment qu'il y a peu de grandes enquêtes de sciences politiques pour connaître un peu les opinions de la base. La dernière date de 2004, donc ça fait un petit moment. Ce qu'on sait, c'est que les militants sont très légitimistes, dans le sens où ils ont tendance à vraiment appuyer et suivre le leader. Donc évidemment, quand le leader a été Nicolas Sarkozy, eh ben on a suivi un peu ses positions, y compris quand il a pris, notamment à partir de 2009-2010, même si avant c'est déjà un peu passé, quand il a pris des tournants un peu plus droitiers, des discours un peu plus fermes sur l'immigration, l'identité, etc. Eh ben les militants ont suivi et il n'y a pas vraiment de personne pour rééquilibrer. Alors la question de savoir si c'est vrai, s'ils sont vraiment plus à droite que les autres. J'en suis pas sûr, parce qu'il y a un élément important qui est, comme je l'ai dit, qu'ils sont légitimistes. Et donc, ils veulent que la droite revienne au gouvernement et qu'ils sont capables, quelque part aussi, d'entendre qu'on va avoir un discours qui puisse être atténué, quelque part, pour pouvoir gagner. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est que la droite gagne plutôt qu'elle porte une certaine idée de la droite. Évidemment, les compromis iront pas non plus trop loin. Il faut que la droite reste droite, selon l'expression consacrée. Mais ils veulent pas absolument une ligne précise, ils veulent que la droite gagne, voilà, avec ses thèmes.
Mais je retiens aussi de ce que vous dites, que le durcissement identitaire n'est pas juste une réponse à la base, mais est coproduite, en tout cas, par les élites du parti. En l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy. On va avancer un peu, justement, sur ces questions d'identité idéologique de la droite. On a observé des tentatives un peu timides du côté des Républicains de prendre en charge des nouveaux enjeux qui ne sont pas spécialement attachés à la droite, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques. C'est Ilyes Rabdani, chez nous, qui chronique tout ça. Mais à chaque fois, quand on lit les papiers d'Iliès, justement, on se rend compte que les propositions avancées sont conditionnées par un cadre qui semble plus fort que tout et qui est le cadre néolibéral pour aller vite, c'est-à-dire la concurrence marchande, la finance privée à qui on laisse à elle-même. Est-ce que, au fond, toutes ces propositions sont pas vouées à être très timides, dans le sens où le noyau dur idéologique des Républicains, c'est un peu son noyau dur sociologique? En gros, c'est une base assez vieillissante qui a des intérêts patrimoniaux à défendre.
Alors, il y a cet élément-là. Après, la question de savoir si ça se traduit en termes de néolibéralisme, de ces grandes idées, de ces grandes doctrines, j'en suis pas sûr, absolument, parce que la droite française n'a jamais été une des plus néolibérales. Elle l'a été dans les années 80, notamment avec donc le Chirac, le Jacques Chirac du début des années 80. Après, ça s'est un peu estompé. Et ce qu'on a, moi, ce que j'observe surtout, c'est une prédominance d'une forme d'ordolibéralisme. Alors le terme est un peu barbare, mais qui est l'idée
que faut expliquer, ouais,
voilà, l'ordolibéralisme, c'est une doctrine qui vient notamment d'Allemagne, notamment de groupes religieux protestants et catholiques, qui dit qu'on doit bien gérer l'État. L'important, c'est de se donner certains principes de conduite de l'État, et notamment de pas trop dépenser, de pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'État. Et c'est une ligne qui est très bien incarnée par Eric Woerth, par exemple, qui a plutôt dominé l'UMP durant la fin du quinquennat Nicolas Sarkozy, avec l'idée de la rigueur, etc. Et c'est ça qui coince. C'est-à-dire, finalement, quand on commence à dire, est-ce qu'on va faire des plans d'investissement, est-ce qu'on va donner des chèques aux gens pour surmonter le moment difficile qu'on connaît en ce moment, par exemple pour les étudiants, le réflexe, c'est plutôt de se dire, pas tant que le marché a dominé tout ça, mais qu'à un moment, on ne distribue pas l'argent, quoi. À un moment, on gère un peu à la papa, si je peux utiliser l'expression, et donc on fait pas n'importe quoi, et c'est cette idée qu'on doit être en gouvernant très concret, très réaliste, très pragmatique, pas de solution trop fantaisiste en tout cas, parce que c'est pas qu'ils veulent absolument l'ordre, c'est que pour eux l'ordre qui existe globalement est plutôt bon, et que toute tentative idéologique d'aller tout changer sur la base de grands principes comme le progrès, la justice sociale et tout, est assez risqué, quoi.
D'accord.
Donc ils veulent bien gérer, et c'est ça qui pose problème au moment où, voilà, de nouveaux sujets arrivent.
Oui, il faut donner de l'ambition à certains nouveaux sujets. Je prends un autre exemple. Depuis l'épidémie, on a vu refleurir tous les discours sur il faut qu'on retrouve notre autonomie, il faut que l'État stratège, voire l'État planificateur fasse son retour. On a reçu des gens ici plutôt à gauche qui défendent ça. Mais à droite, on a entendu ce discours aussi. Dans la presse, on a vu, donc par titre interposé, Xavier Bertrand et Arnaud Montebourg, anciens socialistes, qui disaient, ah bah oui, sur les questions industrielles, de protectionnisme, on peut avoir des convergences. D'ailleurs, Xavier Bertrand s'est un peu fait rattraper justement par des gens comme Woerth, que vous venez de nous décrire, qui font « Oh là, n'allons pas trop loin ». Est-ce que, du coup, ça c'est un peu nouveau? Est-ce que c'est exacerbé par le contexte qu'on connaît avec l'épidémie? Ou est-ce que, pour vous, qui étudiez ça sur un peu la longue durée, est-ce que c'est un peu rien de nouveau sous le soleil, sachant qu'il y a déjà 20 ans, Dominique de Villepin faisait des grands discours sur le patriotisme économique? Comment vous voyez en termes de rupture et de continuité pour...
Alors,
résumé.
Il y a une petite novation quand même, qui est de se dire, chez certains à droite, notamment on constate chez des jeunes générations qui n'ont pas trop été impliquées dans le cœur de la gouvernance Nicolas Sarkozy, c'est de se dire, peut-être qu'on est allé un peu loin dans tout ce qui est suppression des services publics, on voit avec les lits d'hôpitaux aujourd'hui, dans le refus aussi de trop dépenser, parce qu'à un moment, est-ce qu'il ne faut pas donner aussi un peu de l'argent aux gens, notamment aux plus pauvres, aux plus précaires, et donc, oui, il y a cette petite tendance à se dire, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas corriger un peu le tir? Après, la tendance qui est de s'intéresser aux plus pauvres, aux plus précaires, de porter assistance, alors pas à tout le monde, hein, on n'est pas trop généreux.
À ceux qui veulent du travail.
Voilà, à ceux qui, voilà, évidemment, on les encourage à revenir au travail, mais en tout cas, d'aider les mères célibataires, d'aider les personnes handicapées, les retraités avec une petite retraite, les plus précaires, plus éloignés de l'emploi. Ça, c'est assez vieux dans la droite. C'est issu d'une forme de gaullisme social, un peu matiné de démocratie chrétienne, voilà, où on pense un peu aux plus pauvres, etc., où on leur offre un filet de sécurité. C'était même sous Margaret Thatcher, donc au Royaume-Uni, dans les temps les plus néolibéraux, il y a quand même cette idée qu'on doit protéger les plus pauvres, un genre de charité, et donc ça reste en filigrane. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se mettre à faire des grands projets de dépenses, même de planification. Les mots ont été lâchés parfois, mais voilà, même chez les plus sociaux, on va dire, des républicains, il y a quand même cette idée de responsabilité, tout ça. L'idée n'est pas de faire des grands raouts, des grands travaux, des grandes dépenses, mais où il y a toujours eu un peu cette idée qu'on doit prêter attention à ceux qui en ont besoin, qui a été mise de côté pendant le moment d'austérité, parce que voilà, il était temps de conserver les bonnes finances, mais voilà, ça revient un peu par vague, donc c'est pas une énorme innovation non plus.
D'accord. On va rester sur cette question de l'identité idéologique ou culturelle de la droite. En regardant une archive, c'était il y a 20 ans, c'était au moment de la fondation de l'UMP, hein, donc quasiment le même parti qu'on appelle aujourd'hui LR, les Républicains. Donc c'était il y a il y a 20 ans, en novembre 2002, lorsque Alain Juppé est élu président, et vous allez retrouver d'autres personnages bien connus dans cette archive d'un JT.
Vous venez de donner votre confiance pour 2 ans à l'équipe que nous formons, Jean-Claude Gaudin, Philippe Douste-Blazy et moi. Le premier mot, quand notre nom à tous les trois, je voudrais vous dire, c'est naturellement « merci ».
Il dit merci à la tribune tout en pensant certainement au score de Nicolas Dupont-Aignan, car son adversaire, le candidat du canal ex-RPR, gaulliste historique, réalise tout de même près de 15% des voix.
Je suis certain que dans la grande majorité silencieuse de ceux qui n'ont pas voté, eh bien, il y en a beaucoup qui croyaient impossible qu'un autre nom sorte et qui étaient découragés par avance de voter. Eh bien, ceux-là, ils sont avec nous.
Attention, n'écrasez pas M. Baclin comme ça.
Mais peu lui importe aujourd'hui, car pour le mal-aimé de la droite, ce congrès fondateur de l'UNP, c'est son jour, son retour à Paris. À quelques mètres de là, il y en a un pour qui c'est tous les jours son jour. À l'heure du déjeuner, l'entrée bien préparée de Nicolas Sarkozy provoque une bousculade parmi les militants.
Pour le début, je trouve que c'est bien que ce soit M. Juppé qui soit élu en début et après M. Sarkozy.
Je pense qu'il a terminé sa traversée du désert. Est-ce que c'est pour cela qu'il sera au premier plan au niveau de l'exécutif? Pas forcément.
En attendant, la grande messe du mariage entre les libéraux, les centristes et les gaullistes a bien été prononcée au Bourget. Mais c'est demain après la fête que les choses sérieuses commenceront pour Alain Juppé.
Donc, le journaliste de France 2 conclut son reportage en parlant du mariage entre libéraux, centristes et gaullistes. Est-ce que la fondation de l'UMP, avec le recul, aujourd'hui hein, on a 20 ans, est-ce qu'elle a abouti vraiment à clore, à finir la dilution des cultures historiques de la droite, qui aurait pu peut-être prévenir certaines dérives identitaires de la part d'un Sarkozy ou d'un Fillon?
Alors, prévenir les dérives, voilà, si on les considère comme des dérives, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on constatait déjà ça du temps du gaullisme, voilà, même des démocraties libérales, tout ça. Il y avait déjà ça. Après, en effet, ce qu'on constate, c'est que même si vers 2002, il y a eu cette volonté de représenter les grands courants, les libéraux, les démocrates chrétiens, les gaullistes, avec des postes, dans l'archive qu'on vient de voir, normalement, donc Alain Juppé a dû faire une équipe avec Jean-Claude Gaudin et Philippe Douste-Blazy. Donc il y avait cette volonté de représenter tout le monde. Et en fait, ça n'a pas tenu. Ça s'est dilué très rapidement pour former un genre de grand mélange de toutes ces traditions, de consensus un petit peu mou, quelque part. Et en même temps que les grandes traditions, grandes filiations idéologiques avaient tendance à flancher, c'est-à-dire qu'on les retrouve aujourd'hui de manière très ponctuelle dans des petits mouvements comme pour le gaullisme Michel Marie ou Julien Aubert aujourd'hui, mais ça n'a plus l'importance que ça avait avant. Mais pour autant, il n'y a pas eu de grands récits, de grandes doctrines qui soient venues remplacer ça. Nicolas Sarkozy a un petit peu tenté avec voilà ses récits sur l'identité, mais aussi sur le travail plus pour gagner plus, le mérite, etc. Mais voilà, il n'y a pas eu de grands récits, donc finalement on a des traditions qui sont effondrées, mais pas de syncrétisme extrêmement clair pour autant, et donc c'est une situation un petit peu molle, un petit peu vague, qui prévaut aujourd'hui, une forme de consensus. On est un peu d'accord sur les mêmes sujets, il y a des tendances, il y a des divergences, mais globalement on est tous d'accord, voilà, sans pour autant qu'on soit capable de l'exprimer dans un discours forcément un peu fort, où on se démarquerait, où on donnerait une vision très précise de ce que sera l'avenir. Voilà, on est d'accord, mais on ne sait pas tellement comment l'exprimer non plus. Quoi.
Très bien, merci en tout cas, Émilien Ouarviel, d'avoir répondu à nos questions sur la droite. Donc, je rappelle, vous êtes chercheur à Sciences Po, vous préparez une thèse sur le sujet. Merci à vous, merci à vous d'avoir suivi ce numéro des Voix du Pouvoir, et rendez-vous sur mediapart.fr pour tous les autres grands entretiens du studio.